Je suis la responsable de formation de l'école de communication. Je vais vous parler du métier de photographe aujourd'hui. Le métier de photographe a beaucoup changé. D'abord...
Il doit y avoir un malentendu.
Moi, je pense, on ne fait que, et quelle que soit la pratique, hein, je pense que pas seulement la photographie.
Je m'appelle Bruno Bougelal, donc je suis photographe depuis plusieurs années. On ne fait que parler de soi et que relater par rapport à soi des expériences que l'on a eues, alors qu'elles soient en France, en région parisienne, en Afrique, ou, voilà. Mais on ne fait que parler de soi et on ne sait surtout, ne sont que le fait d'expérience.
Bruno Bougelal n'a pas toujours été artiste photographe, mais c'est bien de cela dont nous allons parler, car sa photographie répond à son parcours ici en France. Un premier reportage en Algérie, terre de son père qui ne veut plus en entendre parler, un autre sur l'immigration turque en France, un autre encore sur des jeunes femmes maghrébines, et puis des ateliers au long cours en Afrique et ailleurs dans les quartiers, comme celui de Montfermeil où il est né.
J'ai commencé la photographie en mai 1993. J'effectue un premier voyage en Algérie où je vais retrouver ma famille. Et suite à ça, donc, ce travail donne quelques images. Et un ami qui était un peu dans la photo, qui à l'époque était iconographe dans un hebdomadaire qui s'appelait L'Autre Journal, qui n'existe plus depuis longtemps, me dit « Mais écoute, montre-moi les images, puis peut-être tu devrais essayer de faire quelque chose et peut-être tu devrais continuer à... Peut-être tu peux demander une bourse. » Et à l'époque, j'avais demandé une bourse de la DRAC Île-de-France. Et cet ami me dit, j'étais avec des amis à table, j'étais en train d'emplir le dossier, et moi je leur dis, oui mais il faut un sujet. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui était turc, qui me dit, mais pourquoi tu ne veux pas travailler sur les Turcs de France? Il dit, je t'assure, moi je connais des gens, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et l'idée, est simplement, c'est venu juste de cette discussion avec cet ami, que l'idée de travailler sur la communauté turque en France, c'est juste venu de là.
Alors c'est un travail qui a duré combien de temps?
Qui a duré un an. Pendant un an, j'ai parcouru toute la France, une grande partie de la France, évidemment la région parisienne, la région lyonnaise, la région centre, l'est de la France, il y en a beaucoup, un petit peu la Bretagne. Donc j'ai beaucoup bougé.
Alors c'est ça, hein, le photographe voyage selon son sujet. Alors ça a donné forcément une idée de la trajectoire de l'immigration turque. Hein. Vous le dites, est de la France, région parisienne, peut-être moins dans le Pays Basque. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce documentaire?
Après, il en est ressorti, et c'était à l'époque, alors donc c'était quand même en 94. Je ne sais pas s'il y allait. C'est ce que je me demandais. Parce que ce travail a été présenté et il y a eu une acquisition du musée de l'histoire de l'immigration là, récemment. Et donc ça a été exposé là-bas. Et j'étais en train de me demander si maintenant j'aurais pu effectuer le même travail. Parce que j'ai pu circuler partout et j'ai pu rencontrer tous les gens. Je suis allé effectivement. La communauté turque étant répartie effectivement, vous dites plutôt dans certaines régions en France, et vous savez ça marche plutôt comme ça, c'est-à-dire que viennent des gens originaires d'une certaine région de la Turquie, par exemple près d'une petite ville près de Clermont-Ferrand, et finalement on s'aperçoit que ça vient, on fait venir les gens du même village, les amis, c'est souvent ce procédé-là. Mais ce voyage à travers la communauté turque, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu aussi bien travailler avec des Kurdes, qu'avec des Chaldéens, qu'avec des islamistes, qu'avec ce qu'on appelle les loups gris, qui sont plutôt fascisants. Et personne, à l'époque, ne m'a mis de barrière, tout le monde m'a reçu. J'étais même à l'époque, je me souviens d'une anecdote, à une mosquée à Nancy, où l'imam a arrêté son prêche pour me dire « mais viens à côté de moi, fais des photos ». Je pense maintenant, peut-être je me trompe, mais... Je peux imaginer que maintenant, ça serait beaucoup plus compliqué à faire. Il y avait quand même une grande ouverture. Toute personne, et je pourrais dire pour ce qui n'a pas été le cas peut-être pour d'autres travaux, mais pour ce travail-là, tout le monde m'a reçu et tout le monde a accepté de jouer le jeu.
Alors, est-ce que ça ne vient pas aussi de vos origines, pourquoi pas?
Oui, mais je crois qu'il n'y avait pas le... Mais bon, ça fait presque 16 ans. Je crois que maintenant, les choses se sont durcies, se sont radicalisées, les gens se sont retrouvés. J'ai pu mesurer ça quand j'ai fait ce travail sur les différentes générations de femmes maghrébines, des sœurs de mêmes familles. entre les sœurs les plus âgées et les sœurs les plus jeunes, on sent que déjà au sein d'une même famille de 10 années d'écart, il y a un repli un peu identitaire, il y a du communautarisme, chose qui avant, moi, ça n'engage que moi, je ressentais moins. Quoi. Je pense qu'on est quand même quelque chose de... Il y a un peu, effectivement, hein, les communautés turques, mais aussi musulmanes, ont été tellement stigmatisées, tellement montrées du doigt, donc se sont repliées. Je pense aussi, ça interroge aussi la question de savoir quelle est la place que l'on a donnée à tous ces enfants venant de l'immigration, et qu'on soit turc ou maghrébin ou autre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que ça questionne aussi ça, quoi. Parce que pour qu'il y ait un tel repli communautaire, je vous dis, hein, là, entre ces sœurs plus âgées qui me disent qu'ils participaient à la marche des beurs pour une émancipation, une ouverture, et vous retrouvez leurs jeunes sœurs qui ont peut-être 10 ans moins qu'elles et qui vous disent « Ah non, moi, je porte le hijab. Moi, avoir des amis non musulmans, c'est pas possible et tout. » Je me suis dit « Waouh !» Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, quoi.
Pour le coup, on touche la subjectivité, parce que vous avez choisi donc une famille. Peut-être que dans une autre famille, ça aurait été tout à fait différent.
Sauf que des familles, j'en ai suivi plusieurs. Donc, il y en avait 5 dans la région parisienne et 4 dans les quartiers nord de Marseille.
Et rit sous la pluie. Infidèle, photo d'elle et de lui si belle. Il y avait tout. Un petit chagrin bleu, on le voit un peu. Je me noie quand je parle d'elle dans les eaux du ciel. T'as pas vu mes ailes.
On va peut-être parler d'un autre travail photographique que vous avez réalisé et qui, là, pour le coup, est vraiment en lien avec vos origines, hein, puisque vous êtes d'origine franco-algérienne. Ben racontez-nous, hein, vous avez suivi votre père qui est retourné dans son pays, c'est ça?
Non, au départ, je suis allé tout seul. C'est-à-dire, je commence la photographie avec ça et en 93, comme je vous l'ai dit précédemment, mai 93, je décide de faire un premier voyage en Algérie avec l'idée de retrouver la famille et l'idée aussi de commencer la photographie. Je pense la photographie à cette époque-là étant un prétexte pour me donner un peu une consistance de me dire mais qu'est-ce que je vais aller faire en Algérie pendant un mois dans cette période où j'avais même pas pleine conscience de ce qui s'y passait et de ce que j'allais y trouver. Et donc effectivement j'ai fait ce premier voyage et effectivement j'ai retrouvé ma famille. Après s'en sont suivis une série de voyages, dont deux voyages où j'ai ramené mon père là-bas qui n'était pas retourné là-bas depuis 45 ans. Après c'était très compliqué. Ces deux voyages où j'ai ramené mon père ont été très intéressants. Je pensais, moi, mais ça c'était un fantasme, je pense de ma part, que ça allait permettre à mon père de se réapproprier une part de son histoire, de sa culture, de ses origines. Or, ça a eu l'effet contraire. Ça a été dévastateur. Mon père n'a pas supporté le fait qu'effectivement qu'on fasse ces deux voyages là-bas et de ce qu'il y a trouvé et de ce à quoi il s'est retrouvé confronté. Il n'a pas supporté, à tel point qu'on ne se parle plus, il ne veut plus entendre parler de l'Algérie. Donc je vous dis, ça a eu l'effet contraire.
Pour être précis, vous êtes retourné en 93, donc ça c'était la période de la guerre civile. Vous avez emmené votre père, est-ce que c'était encore la guerre civile ou les choses étaient apaisées?
Non, on a fait un voyage en juillet 97, c'était en 97, pardon, où c'était toujours la guerre civile. Lors de ce premier voyage, mon père a dit à la famille qu'il revenait à l'automne pour faire une grande fête pour célébrer les retrouvailles. Sauf que donc on est rentré de ce voyage en juillet 97 en France et on devait y retourner en octobre. Sauf que fin de l'été 97 et début de l'automne 97, c'est ce qu'on appelle la période des grands massacres en Algérie. Et donc mon père me dit non, me rappelle, je me souviens, mi-septembre, après un des grands massacres, je ne savais plus si c'était Bentala ou Nimsous, enfin il y en a eu tellement, où il me dit écoute moi je ne veux plus jamais retourner dans ce pays de fous, c'est fini. Bon, sauf qu'il me rappelle fin octobre, en me disant, écoute, j'ai 2 billets pour Constantine, est-ce que tu viens avec moi? Et donc, on est quand même retourné, malgré ce contexte très, très dur, très, très sombre. On est retourné, on a refait un deuxième voyage ensemble, début novembre 97, où effectivement, il a fait sa fête. On a réuni toute la famille. La famille était venue de toute l'Algérie pour faire cette fête. Et je me souviens d'énormes palabres et discussions entre mes cousins, mes oncles, pour le choix du village. Parce que c'était tellement tendu, les gens se sentaient tellement dans une telle insécurité qu'on s'est dit, ils se sont dit, mais dans quel village on va pouvoir faire une fête toute la nuit sans danger, sans problème? Et finalement, on a choisi le village sur la route principale qui conduit à Alger, à côté d'une caserne de militaires, ce qui n'était pas forcément synonyme de sécurité avec tout ce qu'on sait maintenant, mais bon, voilà, c'était le contexte.
10, 20 policiers ou gendarmes sont assassinés en pleine rue. Certains groupes islamistes se mettent aussi à cibler des personnalités. Médecins, artistes, journalistes réputés hostiles au fils sont exécutés. Comme Ismaïl Yefsah, un présentateur du journal télévisé enterré ici, en octobre 1993.
Pour vous dire, après les deux voyages en Algérie que j'ai fait avec mon père, j'ai été contacté par le magazine Géo qui sortait, je ne le savais pas, à l'époque, quand j'ai fait les voyages, qui préparait un numéro spécial sur l'Algérie qui s'appelait L'Algérie au cœur, qui est sorti au printemps 1998. Et ils m'ont demandé de publier l'histoire de mon père. Donc j'ai téléphoné à la famille en Algérie, la famille a dit pas de problème, publie, raconte. J'en ai parlé à mon père qui n'était pas tellement emballé, mais qui, bon, écoute, si ça peut te servir, fais-le. Quand le numéro de Géo est sorti, les amis de mon père, qui ont acheté Géo, qui ont vu le Géo quand ils étaient chez le dentiste ou chez le docteur, sont venus le voir, lui ont dit, mais t'es pas italien, toi. Parce que mon père, tout ce temps-là, s'est fait passer pour un italien. Et le fait de voir notre histoire publiée dans Géo, les gens lui ont dit, mais écoute, t'es algérien, t'es pas italien. Donc déjà, ça a été très, très, très compliqué. Mais de toute façon, par rapport à là-bas, ce que j'ai pu pressentir quand on a effectué les deux voyages là-bas, c'est que il y a des choses que je ne sais pas et je pense que je ne saurais jamais, mais il y a plein de non-dits, il y a eu plein d'histoires. Mon père a été emmené en France par le mari d'une de ses sœurs aînées qui travaillait déjà en France. Donc il l'a emmené à Nanterre quand mon père avait 15-16 ans. Et en plein moment, dans les années 60, je ne sais pas si c'est 60 ou 61, je pense que c'est 60, le frère de mon père, qui était lui en Algérie, est venu voir mon père à Nanterre et lui a dit, écoute, il faut que tu reviennes en Algérie pour combattre. Donc mon père a dit, écoutez, moi, ça, c'est plus mon histoire. Parce que la région de Sétif était une région très forte en résistance. Et le frère de mon père, mon oncle, n'était pas un combattant, mais approvisionnait, était pour la logistique des résistants. Il leur amenait de la nourriture, des choses comme ça. Donc mon père a refusé. Mon oncle est rentré en Algérie. Une semaine après, il a été arrêté par la gendarmerie française, torturé et jeté vivant au fond d'un puits. Et c'est lors du premier voyage avec mon père que l'on a fait ensemble en Algérie et qu'on faisait la tournée des villages pour voir tout. Et il a rencontré un de ses vieux cousins germains qui a sorti une photo. Et parce qu'à partir de ce moment-là, du premier voyage, du voyage de son frère qui est venu le chercher, mon père a coupé toutes les relations avec l'Algérie, donc il ne savait plus rien. Et ce vieux monsieur a sorti une vieille photo qui était la photo de mon oncle. Et il dit, écoute, moi je vais t'apprendre ce qu'il est advenu de ton oncle. Après qu'il soit venu te voir en 60 en France pour revenir, ce que je vous ai dit, il s'est fait arrêter par les Français, torturé et jeté vivant. Donc mon père, je pense, a reçu tout ça et d'autres choses lors de ses voyages. Le fait, par exemple, de dire, mais attends, pourquoi ton fils s'appelle Bruno? C'est quoi cette histoire? Donc mon père était très embêté. Et la réalité, c'est que mon père a mis enceinte ma mère qui était française et il est parti. Il a disparu. Et donc à ma naissance, ma mère était seule et j'ai été reconnu par mon grand-père français. Et donc mon grand-père et ma mère m'ont donné le prénom de Bruno. Et je m'appelais pas Boujelal, je m'appelais Sombré, m'avait même donné leur nom de famille français. C'est seulement un an après, quand mon père est revenu avec ma mère et qu'ils se sont mariés, qu'ils m'ont reconnu et qu'ils m'ont donné le nom de Boujelal. Donc expliquer, assumer tout ça, je pense à la famille, à ses frères, à ses sœurs. Je pense que ça a été très, très douloureux et difficile à assumer, quoi, parce qu'ils l'ont dit, ses sœurs lui disaient, mais ça veut dire que tu as abandonné ton fils, toi tu peux abandonner. Vous voyez, renvoyer à plein de choses, trop compliqué pour lui.
Alors effectivement, hein, vous vous appelez Bruno, donc même pour vous, vos racines, est-ce que c'était si présent que ça? Enfin, comment ça s'est passé après, le regard que vous aviez sur l'Algérie et quand vous en êtes revenu après ce documentaire?
Écoutez, non, ça a été longtemps. C'est-à-dire que j'ai vécu, une fois que ça a été compliqué, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais à ma naissance, donc quand j'ai été reconnu, on m'a donné ce nom et ce prénom français. Le lendemain, ils m'ont abandonné à l'assistance publique. Et puis quand mon père est revenu, avant que mon père soit revenu, quelques mois avant, il y a mon arrière-grand-mère, dont je ne me souviens pas, mais du côté français, qui est venue elle-même me rechercher en disant à ma mère et à mes grands-parents, écoutez, vous ne pouvez pas laisser cet enfant-là, moi je vais m'en occuper sans ça. Et puis, après, quelques temps après, mon père est revenu, s'est marié avec ma mère. Donc j'ai vécu, je suis allé habiter avec mes parents. quartier, enfin un profil classique, hein, dans un quartier très difficile de la banlieue parisienne en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Les Bosquets à Montfermeil, même si c'était moins dur il y a 40 ans que maintenant. Et puis donc j'ai vécu pas mal de temps là-bas. Puis après j'ai vécu, parce qu'il y avait des problèmes avec mes parents, j'ai vécu avec mes grands-parents français. Et donc là je suis parti complètement sur autre chose. Et j'avais toujours eu, et d'ailleurs c'est ça qui était intéressant, en faisant tout ce travail sur l'Algérie, tous ces voyages, ça m'a aussi moi amené à me poser plein de questions. J'ai longtemps pensé que, effectivement, que mes parents une nouvelle fois m'avaient abandonné et que mes grands-parents français avaient fait taire en moi, évidemment, toute cette partie algérienne et ses origines algériennes, mais un peu pour me servir, pour me protéger. Finalement, avec le recul, je m'aperçois que c'est plus compliqué que ça, c'est qu'ils ont essayé de complètement de taire et de manipuler un peu mon père et de taire ça en moi, à tel point que je vous dis, quand j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, je vivais chez mes grands-parents français, on partait des fois en vacances, et les amis que je pouvais me faire en vacances, je leur donnais Bruno et je leur donnais le nom français que j'avais eu à ma naissance. Donc c'est un peu quelque chose qui était complètement tu, enfoui. Et je vous dis, j'ai avancé comme ça jusqu'à la trentaine, où m'est tombé quelque chose dessus, de dire, ou bloqué dans ma vie ici, et de dire, voilà, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc j'ai commencé à creuser, à gratter. Alors évidemment, plein de choses sont revenues, d'où qui m'ont conduit aussi à faire ce premier voyage en Algérie, où moi je me suis dit, malgré le fait que mon père était opposé au fait que je retourne en Algérie en 93 pour retrouver la famille, moi j'ai dit, écoutez, j'avais juste le nom du village sur un petit papier, écrit sur un papier, le nom du village où mon père était né, et je me suis dit, je vais rechercher la famille.
Alors, vous avez des frères et sœurs, juste pour contextualiser un peu ?
Pas à ma connaissance, mais c'est possible. Mon père étant polygame, je pense que c'est possible, mais à ma connaissance, non.
Montfermeil, Seine-Saint-Denis. Cité des Bosquets, 7500 habitants, 80% d'immigrés de 23 pays. Un ghetto, y compris au sens propre, si l'on peut dire. La société propriétaire est en faillite, aucun entretien, danger permanent. Seuil de détresse et seuil de saturation pour la commune avec 27% d'immigrés. Et pourtant, malgré les apparences, Montfermeil veut bien continuer à accueillir les familles d'immigrés. Mais alors, équitablement avec les communes voisines.
Ça, c'était une grosse partie du travail, donc en relation avec vos origines. Mais peut-être qu'il y a une autre partie aussi de votre travail qui est beaucoup plus éducatif. Hein, ce que vous faites avec les quartiers, hein, puisque vous avez vécu dans le quartier de Montfermeil, donc j'imagine que ça aussi, ça a une résonance par rapport à ce que vous faites maintenant. Racontez-nous un peu ce que vous faites en direction des populations dans les quartiers.
J'ai été sollicité par des gens, parce que je pense que les gens ont entendu parler du travail, et j'ai été sollicité par des gens, des instituteurs ou des éducateurs, des fois pour intervenir dans les quartiers. Alors moi, après, je ne suis pas tellement sur le fait de... Je ne suis pas tellement dans ces histoires d'intervention ponctuelle, de venir une journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire... Ça m'est arrivé, hein, je me souviens d'une institutrice dans un quartier difficile de Créteil qui m'a dit, écoute, moi, je voudrais faire travailler des enfants. Et finalement, on s'est retrouvé à faire travailler sa classe pendant un an. Je venais tous les jeudis après-midi et je les ai fait travailler pendant un an sur leur vie, quoi. C'est-à-dire on leur donnait, moi, ce qui m'intéresse plutôt, mais pas seulement avec des enfants des quartiers, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des jeunes photographes africains à travers tout le continent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire produire les gens. Après, ça peut être aussi au sein d'une première rencontre, leur raconter peut-être mon histoire, tout ça. Mais je pense, ma raison d'être là, ça a plus d'intérêt de faire produire les gens, d'amener les gens à construire, à faire quelque chose, que juste que je vienne là leur raconter ma vie, intéressante ou pas, je sais pas. Moi, je suis plutôt là-dedans. Donc, à chaque fois, les expériences que j'ai pu avoir en banlieue avec des classes, des enfants, on a été sur cette idée de produire des travaux, mais plutôt long cours. Donc, je vous dis, un an, par exemple, avec cette école des quartiers, ça s'appelait le quartier des Bleuets à Créteil. Par exemple, je suis intervenu un an avec Atelier Carmonde, vous savez, qui fait des bibliothèques de rue le samedi après-midi, dans des quartiers difficiles. Ils se posent dans un square ou un lieu, ils viennent avec des caisses de livres, vient qui veut, emprunter des livres. Et eux, ils m'avaient dit, écoute, on aimerait bien que tu viennes, mais comme ce n'est pas vraiment un cadre très structuré, on ne sait pas si les gens vont venir, vont s'inscrire dans la durée dans un atelier avec toi. Et finalement, je me rappelle, cet atelier à Catélie Carmonde, c'était en 2002, je crois, on a fait travailler 57 enfants pendant un an, de 4 à 17 ans. Donc voilà, moi je suis plutôt sur des démarches au long cours. Par exemple, on a fait aussi un travail très intéressant avec une photographe marseillaise qui s'appelle allemande, mais qui vit à Marseille, qui s'appelle Suzanne Hetzel. On avait été contacté par un centre social des quartiers nord de Marseille, d'une cité qui s'appelle Frévalon. Et on était intervenu à Frévalon pendant un mois. On avait collecté, on a collecté 3000 images des albums de photos des gens du quartier. Et on avait fait des photocopies couleur en A3 et on avait exposé 2000 images sur les murs de la cité où... Ce qui était, c'était fort, hein, parce que c'était un peu. Il y avait aussi bien des photos de la cité dans les années 50, quand Gaston Defer posait la première pierre du bâtiment, que des photos qui avaient été faites il y a deux mois d'un anniversaire ou je ne sais pas quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parlait de la mémoire collective du lieu et aussi c'était les images des gens. C'est pas exactement si moi je viens coller mes images sur le mur de la cité, c'est pas exactement la même chose. Là, c'était les images de gens. Et il y avait toute la cité dehors qui était là à dire mais voilà, mais c'est un tel, on ne l'a pas vu depuis longtemps, mais ça c'est la famille machin, ils ont disparu, et ça c'était très fort. Donc moi je suis plutôt sur des choses comme ça que juste de je peux le faire, de dire voilà, vous allez venir une demi-journée ou une journée présenter votre travail sur l'Algérie, sur ceci, sur cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire produire les gens.
Quel regard ils avaient finalement sur la photographie, et spécialement sur la photographie d'auteur? Parce que après, des images, ils sont confrontés à tout un tas d'images, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, sur le regard d'auteur,
Après, moi, je pense que le regard d'auteur, c'est juste une question d'avoir la volonté, d'avoir cette proximité. Il faut aller au-devant des gens, quoi. Il faut travailler avec les gens. Faut leur expliquer, faut faire des choses. L'exemple, j'ai fait une résidence pendant deux mois dans les quartiers sud de Bastia, où effectivement il n'y a rien. Et on a fait, donc moi j'ai travaillé pendant un mois avec une classe, j'ai fait photographier une classe, j'ai collecté des images des habitants, j'ai fait mon travail aussi de photographe, mais je faisais des films, du son, et tout ça, ça a été l'objet d'un montage. De ce qu'on appelle un slideshow, toutes ces images montées, collectées, produites par les enfants, mes images, le son, tout ça a été l'objet d'un slideshow d'une quarantaine de minutes. Et on a projeté ça dans la salle des sports du quartier où il y avait 500 personnes. Et en plus, les gens qui avaient fait la commande avaient eu la bonne idée de presser le 500 exemplaires de ce slideshow et étaient remis un DVD, un simple DVD vidéo, à tous les gens qui étaient venus à la projection. Et la réaction était forte, quoi. Les gens, ils se posent même pas la question de savoir si on est sur une photo d'auteur, si on est là. Il y a un travail qui a été fait avec eux parce que j'étais il y a deux mois. Et les gens adhèrent plus ou moins, mais sont là, ont compris. Je pense le tout, c'est d'être là, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, quoi.
Alors, est-ce que ces jeunes fantasmaient un peu votre travail, parce que donc vous avez voyagé, est-ce que pour eux c'était quelque chose...
Après il y a une représentation, ce qui le fait fantasmer c'est l'histoire de, à mon idée, qui est une image d'Épinal et désuète du grand reporter qui voyage à travers le monde. Bon, il y a cette idée-là de dire vous avez traversé l'Afrique sur la route pendant 4 ans, vous avez été au Burkina, moi je suis de Burkina. Voilà, il y a une histoire de fantasme, mais après qui disparaît, quoi. Qui disparaît vite parce qu'on est juste après sur le fait de... on est plus dans cette réalité, dans le temps, le temps concret où les gens parlent, les enfants en l'occurrence, mais aussi les gens sont sur ce qu'ils font, ou la mémoire, ils parlent de ce qu'ils sont, d'où ils habitent. Et moi je pense qu'il n'y a pas de problème, je pense, avec la photographie, ce qu'on peut dire d'auteur, ou même qu'on parle, quelle que soit la démarche. Bon. Après, le tout, c'est d'être là et d'avoir la volonté d'être avec les gens et d'amener les gens à ça. Par exemple, chose où je peux être très sceptique par rapport à ici, mais aussi par rapport à d'autres festivals, quoi. Mais bon, peut-être c'est un sentiment, peut-être je me trompe, mais je crois que je me trompe pas. On pourrait faire des choses, on pourrait chaque année, ça peut être dans les commandes, de dire on envoie quelqu'un au niveau du son, quelqu'un au niveau de l'image, quelqu'un au niveau de la vidéo, et travailler tous ensemble sur un quartier avec les gens, collecter et restituer ça. Et là, on peut dire, on travaille sur une restitution d'une mémoire collective d'un quartier. Et vous verrez, tous les gens du quartier seront là, et si ça tombe de là, seront encore plus dans le festivaline. Mais après, ça, c'est des choix, c'est des volontés de direction artistique. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est tellement là-dedans. On est dans la célébration d'une partie de la profession. Alors, des fois, c'est justifié parce qu'il y a des grandes... Moi, mon sentiment un peu profond, je pense qu'on est là, on est sur quelque chose Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens, quand même, des choses. Je trouve qu'il manque de sens.
Les premières rencontres internationales, fondées en 69 par Lucien Clergue, Michel Tournier, prix Goncourt 73, et Jean-Maurice Rouquette, conservateur du musée Réattu, prennent leur départ au moment où des millions d'amateurs dans le monde entier s'aperçoivent enfin que la photo n'est plus seulement un moyen d'arrêter la fuite du temps, mais encore un art nouveau qui compte ses talents et ses maîtres, comme la peinture ou le cinéma. Si la prospérité de ces dernières années met la photo à la portée de toutes les bourses, elle ne commande pas forcément le regard unique de l'artiste. La motivation des organisateurs du Festival d'Arles tente à faire de ces manifestations non pas une foire industrielle, mais le trait d'union entre la création et le grand public.
On a tendance à penser que c'est plus compliqué qu'auparavant de monter des expos, d'être publié dans les magazines, parce que forcément vos photos ont été publiées soit dans la presse quotidienne, les hebdos et ainsi de suite. Alors voilà, comment vous avez vécu depuis 93, cette évolution.
Effectivement, on peut dire que ça va de mal en pis, il y a de moins en moins de moyens, la presse c'est fini. Moi, j'ai pu faire des gros travaux avec la presse qui m'ont produit au long cours. Ça n'existe plus. L'institutionnel, ça devient aussi difficile parce que comme la culture, mais beaucoup d'autres secteurs, il y a des coupes budgétaires, donc il y a encore moins d'argent. Les lieux, il y a très peu finalement. On s'aperçoit quand même, il n'y a pas tant de lieux que ça pour exposer. Et ce qui peut être assez contradictoire, c'est qu'il y a de plus en plus de propositions. Il y a de plus en plus de jeunes photographes. Il y a plus en plus de choses intéressantes et il y a de moins en moins d'espace pour présenter ça. Donc effectivement, on est sur un embouteillage. Après, par rapport à la qualité, il y a Christian Cojol qui a créé l'agence Vue, qui lui dit il y a de plus en plus de bons photographes, mais il y en a toujours aussi peu de très bons. Ça, c'est ses mots, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit le nombre de propositions, il y a énormément de choses produites de partout, de photographes qui viennent du monde entier. Et il y a le problème, il n'y a plus de support de presse, de faire un livre. Un livre, c'est très difficile. De toute façon, ça coûte cher et ça ne se vend pas. Les magazines, c'est fini. Les expositions, il y a très peu d'espace. Si vous voulez exposer à Marseille ou à Paris, c'est très compliqué. Les festivals, c'est aussi compliqué parce que c'est quand même des réseaux, il y a une cooptation. Non, on est sur. Et c'est assez contradictoire. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de choses, mais je crois qu'il n'y en a jamais eu si peu. Donc après, peut-être ça va donner quelque chose, ou peut-être. Je sais pas exactement, mais en tout cas, je trouve que ça bouge beaucoup, je vois. Mais après, ça peut poser question. Moi, je peux me demander, j'ai fait beaucoup, par exemple, beaucoup d'ateliers avec des jeunes photographes africains. C'est-à-dire, vous amenez des gens sur des pratiques photographiques où ils peuvent être très intéressés, où ils peuvent même être très bons, voire même brillants, tout en sachant qu'ils n'ont aucune démarche, aucune ouverture par rapport à la pratique sur laquelle vous les avez amenés dans leur pays. Donc, des fois, de faire des ateliers, je me dis quel est le sens, quoi. C'est-à-dire de trouver des gens, après ça dépend des pays, mais par exemple d'être au Tchad, de faire un atelier au Tchad, j'ai trouvé effectivement, mais ça aurait pu être d'autres, un photographe, très jeune photographe, très brillant, et vous lui faites produire un boulot qui va être reconnu, mais quand vous l'emmenez et qu'il vous ramène à l'aéroport, qu'il vous dit mais et la suite de l'histoire c'est quoi ?
C'était un entretien avec l'artiste photographe Bruno Boudjelal, enregistré à Arles pendant les Rencontres photographiques 2010. Le prochain projet de Bruno Boudjelal, c'est un voyage au long cours, alors ni à Katmandou, au Honduras ou au Zimbabwe, mais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Pour voir les clichés de Bruno Boudjelal, rendez-vous sur le site de l'agence Vue, www.agencevue.com, et tapez son nom comme il se prononce.